France Inter, le 7-9, intervenez.
Intervenez auprès de Ziad Majed, politologue, professeur à l'Université américaine de Paris, et Laurence Nardon de l'IFRI. Jocelyn nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Jocelyn.
Bonjour. Écoutez, c'était juste pour savoir, sans excuser la Russie, sans être pro-russe, où est-ce qu'en serait aujourd'hui la situation en Syrie si la Russie n'avait pas décidé d'y aller physiquement sur le terrain.
C'était il y a un peu plus d'un an, effectivement, que la Russie a décidé d'intervenir sur ce conflit. Ziad Majed.
Oui, alors il est toujours difficile de parler de scénarios et d'hypothèses. On peut les évoquer, mais ce qu'on sait depuis l'intervention russe, qu'il y a eu des milliers de civils tués par l'aviation russe, que Bachar al-Assad, responsable de la mort de 200 000 civils en Syrie, est au pouvoir aujourd'hui encore grâce à cette intervention-là. Quelles sont les alternatives? Premièrement, la société syrienne, qui est occultée souvent dans les discussions et dans les débats et dans les analyses, a un potentiel très important. Il y a des élites syriennes qui vivent en Syrie comme à l'extérieur. Il y avait des alternatives à Alep même, où il y a un conseil élu. Il y a des forces politiques qui ont des agendas et qui ont une vision pour le futur de la Syrie. Mais tout cela n'est pas possible de se développer. Il ne peut pas être élaboré sous les bombes et sous les massacres qui visent non seulement les combattants, comme on l'a dit, mais surtout les civils. Donc,
pour répondre précisément à l'auditeur, si la Russie n'était pas intervenue, on peut penser il n'est pas certain que Bachar al-Assad soit toujours au pouvoir?
Non, il n'est pas certain, et du moins il aurait pu y avoir une solution politique avec des discussions sérieuses, avec un rapport de force différent. Il y avait le processus de Genève oui. 1, Genève 2, Genève 3 qui stipulait une transition de pouvoir, qui stipulait un nouveau corps de transition auquel les prérogatives de la présidence devaient être données.
Et les Russes étaient autour de la table, rappeler à ceux qui disent qu'il faut négocier avec les Russes, on ne parle pas aux Russes, etc.
Ils étaient là, avec Genève. Les Américains, ils ont sponsorisé ce processus-là, et Lavrov était présent tout le temps. Et ils ont commencé après à utiliser une terminologie qui différait d'une manière assez importante de ce qui se disait à Genève, qui stipulait une transition. Les Russes ont commencé à parler d'une coalition, d'une réconciliation, c'est-à-dire en préservant Assad au pouvoir. Et quand ils ont vu que cela était de plus en plus difficile sur le terrain comme au niveau politique, leur intervention militaire a commencé, elle a renversé le rapport de force, elle maintient Bachar, le processus politique est saboté et des massacres des civils ont eu lieu par l'aviation russe et celle du régime.
Bernard Ritter.
Oui, un autre élément de réponse à notre auditeur. N'y voyez pas, monsieur, une polémique. Simplement des questions. Pour reprendre les termes de votre question, où en serait la Syrie aujourd'hui si Bachar el-Assad n'avait pas libéré les islamistes les plus fous qui ont fondé Daesh? Où en serait la Syrie aujourd'hui si Bachar el-Assad avait accepté au début des manifestations un geste d'ouverture, une évolution vers la démocratie? Voilà, réfléchissez à cela aussi, monsieur.
Fabienne nous appelle de Paris. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Je me demande pourquoi les différents gouvernements démocratiques européens ne renvoient pas leur ambassadeur russe, pour protester pour mettre fin à toute relation diplomatique avec un régime génocidaire, comme on l'avait fait, je crois, en 2012, quand on avait renvoyé l'ambassadeur de Syrie au moment des exactions de Bachar al-Assad.
Laurence Nardon.
Ah oui, bah alors ça pose toute la question de la relation avec la Russie, parce qu'il y a la Syrie, mais il y a aussi l'affaire de Crimée et d'Ukraine. Et que ce soit en Europe ou aux États-Unis, en fait, on est un peu saisi par cette résurgence russe qui est maintenant ancienne, hein, avec Vladimir Poutine, et tout le jeu est de savoir jusqu'où aller pour contrer cette résurgence de la puissance russe. Alors, on sait que l'OTAN mène des exercices à renforcer les bataillons qui sont présents en Europe centrale, mais le renvoi des ambassadeurs, c'est vraiment ce serait vraiment un pas important, et je pense que les chancelleries occidentales hésitent à le faire.
Bien sûr, et on on peut dire que l'administration américaine, avec Trump,
également,
n'en prend pas du tout le
chemin.
Ah
oui, ça c'est évident.
Absolument pas le chemin. Une question qui s'adresse un peu à vous, enfin à nous tous, mais à vous, en particulier aussi Bernard Guetta, Denis Delin qui nous dit: pourquoi y a-t-il sur France Inter deux poids, deux mesures à traiter le Yémen et la Syrie? Je rappelle qu'au Yémen, il y a une opération particulièrement meurtrière et particulièrement sanglante qui est menée par les troupes saoudiennes que la France et d'autres puissances occidentales arment, avec des civils qui ont été tués. On en a relaté la dernière fois. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, est venu répondre sur les massacres ou les exactions commises par l'armée saoudienne au Yémen. Bernard Guetta.
Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il m'est arrivé moins souvent, c'est vrai, qu'à propos de la Syrie, de parler de ce conflit qui est tout aussi épouvantable que celui de la Syrie. Les armées saoudiennes, enfin les aviations d'ailleurs, essentiellement les aviations saoudiennes et généralement les aviations du Golfe, se comportent au Yémen exactement de la même manière que les Russes en Syrie. C'est vrai. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle moins? Pourquoi est-ce qu'un chroniqueur est amené à en parler moins? Parce que quand un pays comme la Russie, c'est-à-dire le plus étendu des pays du monde, une puissance nucléaire, un membre permanent du Conseil de sécurité, se comporte de cette manière, c'est beaucoup plus suffocant. Oui, c'est vrai, je l'avoue, c'est beaucoup plus suffocant et inquiétant en termes de dynamique internationale, que lorsque un régime comme celui de l'Arabie Saoudite se comporte de cette manière, parce que on n'attend pas beaucoup, beaucoup mieux de l'Arabie Saoudite.
Ziad Majed.
Oui, alors juste pour rebondir sur cette question, c'est une question tout à fait légitime. Il faut parler de ce qui se passe au Yémen, il faut parler de ce qui se passe en Afrique centrale, il faut parler de ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, à Mossoul, partout. Et il n'y a pas une victime qui vaut mieux qu'une autre. Mmh. Mais parfois, il y a une volonté chez certains, soit de négationnisme, de mettre en question toujours et en doute tout ce qu'on voit depuis 6 ans en Syrie, un conflit le mieux documenté, avec des images chaque jour qui viennent, de mettre tout cela en question. Oui, mais c'est pas vrai. Oui, mais on sait pas qui tue qui. On sait qui tue qui. On sait dans quelle région les civils tombent. Ou bien on échappe pour ne pas dire qui tue qui et nier le massacre qui se passe en Syrie, à inviter d'autres scènes, à faire des comparaisons avec d'autres victimes, comme le Yémen et comme ceux qui tombent en Irak. C'est vrai qu'au Yémen, il y a une guerre menée par l'Arabie Saoudite aujourd'hui contre une partie de la population du Yémen, celle des Houthis et celle toujours loyale à Ali Abdallah Saleh. Et il y a des crimes de guerre, il y a des hôpitaux également qui ont été visés. Il faut le dénoncer et il faut le rappeler. Mais il ne faut pas échapper de la Syrie en parlant d'autres scènes pour relativiser les crimes commis par la Russie et par le régime Assad. Et il ne faut pas comparer non plus avec Mossoul, où c'est une autre configuration, un autre cas, où Daesh est en place, et où l'aviation, oui, fait des dégâts parmi les civils, mais ne vise pas d'une manière systématique les hôpitaux, les boulangeries, comme l'ont fait les Russes. Et juste j'ajouterai une chose par rapport au Yémen. Il faut rappeler aussi que le Yémen, c'est depuis 2014 que cela a commencé. Cela faisait déjà 3 ans que ça se produisait en Syrie. Donc moi, je pense que l'impunité qu'on a vue en Syrie par rapport aux crimes de guerre a encouragé d'autres acteurs, y compris l'Arabie Saoudite, à aller dans des guerres et à ne pas se poser plein de questions, puisque de toute façon, tout se passe en Syrie. Les crimes sont commis et personne ne dit rien. Pourquoi ils vont nous arrêter à nous?
Ziad Majed, un mot sur une formule que vous avez employée. La Syrie, le conflit le mieux documenté. On a, dans les réactions d'auditeurs, de lecteurs, ces derniers jours dans la presse, des gens qui disent « mais où sont les observateurs indépendants? Où sont les ONG dans le réduit d'Alep assiégé par l'armée syrienne et ses alliés? Où sont ceux qui peuvent témoigner de façon indépendante sur ce qui se passe réellement à Alep ?» Vous avez vu ces commentaires?
Oui, j'ai vu.
Certains
j'ai...
de ces Bien des, sûr, des témoignages et de la situation qui est décrite à Alep.
Depuis le début de 2011, il y a ce genre de commentaires. Alors, le régime syrien a très bien suggéré de son point de vue la question de l'information. Il a fermé toutes les frontières. Il n'a pas permis à aucun journaliste indépendant temps de se rendre. Ceux qui vont là-bas avec la permission, l'autorisation du régime, font de la propagande. Il y a des chercheurs français qui le font, des journalistes également. Sinon, dans les zones contrôlées par l'opposition, il y a des activistes qui documentent les crimes de guerre commis par tout le monde, y compris dans certains cas par certaines formations de l'opposition même et par les djihadistes. Il y a des sites qui sont de grande crédibilité par des avocats. Il y a les informations qui sont à chaque fois comparées avec des témoignages, avec des preuves. Il y a une quantité d'images qui vient de la Syrie. On sait qu'il y a une seule aviation qui bombarde Alep. On sait, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est l'aviation russe et celle du régime.
Oui.
On sait que
qui a maintenu d'ailleurs un blocus assez étanche d'Alep, c'est-à-dire qui empêchait, avec une couverture du ciel, des largages d'armes pour les rebelles ou des largages de nourriture.
Même de nourriture.
De nourriture.
On sait qu'il y a des sièges imposés.
Toute intervention humanitaire était impossible.
Exactement. Les sièges imposés par le régime sont des sièges dans plusieurs localités, dans plusieurs zones. On connaît les détails. C'est pas vrai qu'on n'a pas suffisamment d'informations crédibles. C'est juste des gens qui sont dans le négationnisme, dans le révisionnisme, qui ne veulent pas voir la réalité pour pouvoir argumenter et défendre la Russie surtout.
Thomas Legrand.
Oui, c'était juste une petite précision par rapport à cette question du Yémen. Il n'existe pas en France, aucun homme politique, aucun parti politique qui soutient l'intervention de l'Arabie Saoudite au Yémen. C'est la grosse différence par rapport à ce qui se passe avec la Russie.
Vous nous ramenez au débat français.
Et au débat français. Oui, je suis le éditorialiste politique de l'intérieur, donc je vous ramène un peu au débat français. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette perception de poids de mesure.
Un mot avec vous, Laurence Nardon, pour revenir au débat américain. Donc, on voit le frottement qui se produit chez les Républicains entre les anti-russes, enfin, en tout cas, ceux qui expriment de fortes réserves à l'égard du régime de Poutine, et puis les pro-russes que vient de nommer Donald Trump. Comment est-ce que ça peut évoluer? Quel peut être le poids de la superstructure, comme on dit?
Oui, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que donc les personnes que Trump est en train de choisir pour constituer son administration risquent de le tirer dans des sens divers sur ces questions de politique étrangère. En ce qui concerne la Russie, ce qui va être intéressant, c'est que donc au-delà de cette idée qu'a Trump manifestement que maintenir Bachar en place serait le moyen de stabiliser la région, enfin la Syrie en tout cas, quand on dépasse cet élément-là, les divergences apparaissent assez vite entre la Russie, enfin la position de Vladimir Poutine et celle de Trump, notamment sur l'Iran, allié objectif de la Russie, contre lequel Trump est vraiment assez négatif et assez méfiant. On va voir ce que ça donne d'ailleurs. Et puis aussi à la question de Daesh, puisque Trump, en fait, dans tous ses discours de campagne, a désigné le terrorisme sunnite radical comme la menace principale, une menace vraiment prioritaire pour son pays. On se souvient que cet été, il y a quand même eu 49 morts dans une discothèque en Floride. Et donc, Trump, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un nationaliste de repli, il veut défendre le clan. C'est vraiment une mouvance très jacksonienne. Et donc, le clan, aujourd'hui, la population américaine, elle est menacée par ces terroristes. Et donc, pour lui, la menace prioritaire, c'est Daesh. Or, c'est pas vraiment la priorité de Vladimir Poutine. Donc, on va voir que les divergences vont bientôt se manifester. Et quand on met deux mâles dominants en présence, ça se passe jamais bien très longtemps. Donc, je suis pas sûre que cette entente qu'on décrit entre Poutine et Trump va durer très longtemps,
personnellement. Quand vous dites deux mâles dominants, on se représente parfaitement les deux personnages, effectivement, qui sont à la tête des deux grands pays, que sont les États-Unis et la Russie.